Bonjour à toutes et à tous, il est 12h30 sur France Culture. Et tout de suite, c'est l'heure du journal de la rédaction, présenté par Hélène Fromantier. Bonjour Hélène.
Bonjour Maëlys, bonjour à toutes et à tous. Il s'agirait d'une des pires tragédies en Méditerranée depuis le début de l'année. Plusieurs dizaines de migrants sont toujours portés disparus après le naufrage d'une embarcation au large de la Libye. Les rescapés sont traumatisés et le récit du drame reste flou. Nous y reviendrons en tout début de ce journal. Les espoirs de paix gelés entre Israël et la Palestine. L'autorité palestinienne tourne le dos à tous les accords conclus ces dernières années avec l'État hébreu. Étienne Monin va nous expliquer les conséquences possibles. Dans cette édition, également le fichage biométrique des mineurs étrangers validé par le Conseil constitutionnel. La saga de l'EPR de Flamanville qui continue, pas de mise en service avant 2022 au moins. Nous reviendrons sur les derniers épisodes avec Véronique Robertot. Et puis retour sur la disparition du journaliste enquêteur Pierre Péan, un auteur à la rigueur et au style plus qu'aiguisé, nous dira Laurent Ducastel, l'un de ses fidèles collaborateurs. Et dans la grande table d'été, Maëlys Bessery,
ce sera l'exposition Incoming de Richard Moss qu'on visitera au lieu unique dans le cadre du festival Voyage à Nantes avant de faire le portrait du chanteur Tété.
A tout à l'heure Maëlys. On savait, la mer Méditerranée transformée en un immense cimetière et une nouvelle tragédie pourrait alourdir la longue, trop longue liste des migrants et réfugiés décédés en mer ces dernières années, après avoir fui leur pays d'origine. Une embarcation a en effet fait naufrage hier au large de la ville de Homs, dans l'ouest de la Libye. Plusieurs dizaines, peut-être plus d'une centaine de migrants sont portés disparus. L'Organisation internationale pour les migrations et la marine libyenne ont donné des chiffres différents sur le nombre de victimes. Écoutez les explications de Julien Reckmann, il est le chef de mission de Médecins Sans Frontières en Libye, joint par Valérie Crova.
Ce qu'on a, nous, comme information, c'est qu'il y avait 400 personnes, il y avait une embarcation de 300 et une embarcation de 100. L'embarcation de 300, les gens sont retrouvés à l'eau, en partie, et ont été sauvés par des pêcheurs. C'est 135 personnes qui ont été sauvées sur ce groupe-là, il y en a 70 qui se sont noyés. Donc il y avait encore 200 personnes à l'eau dont on n'avait pas de nouvelles et c'est eux qui ont, c'est eux qui ont été désembarqués hier. Les informations que j'ai, et c'est pour ça qu'on prend toujours tout avec beaucoup de précautions, les chiffres, ils sont certains puisqu'on compte les gens nous-mêmes, mais les témoignages de ce qui s'est passé, comment ils se sont retrouvés à l'eau, etc., c'est très difficile d'avoir des choses qui sont solides puisque on reçoit ces témoignages de personnes qui sont profondément traumatisées, qui ont parfois fait des heures dans l'eau. Donc c'est pour ça qu'il faut tout prendre avec beaucoup de précautions. Et surtout, ce qu'on demande encore une fois, c'est beaucoup plus de transparence de la part des Libyan Coast Guard quand ils font des interventions.
Parmi les victimes, il y avait des enfants?
Des femmes et des enfants. Oui. Apparemment, il y avait plusieurs familles et le nombre d'enfants qui sont arrivés assez petit. Donc malheureusement... Voilà, dans l'eau plusieurs heures et puis souvent les enfants savent évidemment moins bien se débrouiller. Oui, malheureusement il y a sans doute un nombre important d'enfants dans ce groupe.
Et la centaine de migrants qui ont pu être sauvés des Érythréens principalement doivent être placés dans des centres de détention libyens, des lieux aux conditions souvent décriées par les ONG. Eux aussi ont quitté leur ville ou leur village en quête de sécurité. Selon l'ONU, 400 000 Syriens ont fui le nord-ouest de leur pays, notamment la province d'Idlib et ses environs depuis 3 mois. La zone dominée par les djihadistes fait l'objet de bombardements quasi quotidiens par le régime de Bachar al-Assad et de son allié russe. Les déplacés se rendent généralement plus au nord, à proximité de la frontière turque. L'Iran a relâché 9 Indiens, 9 membres de l'équipage d'un pétrolier saisi il y a 2 semaines dans le détroit d'Ormuz. Téhéran avait alors accusé le MT Riya, battant pavillon panaméen, de transporter du pétrole de contrebande. Le ministère indien des Affaires étrangères n'a pas donné plus de précisions sur la libération de ces 9 personnes. 21 Indiens sont toujours détenus par les Iraniens, dont 3 membres de l'équipage de ce navire. Après plusieurs menaces et sur fond de tensions accrues avec Israël ces derniers mois, le président palestinien Mahmoud Abbas a finalement tenu parole. L'autorité palestinienne va cesser de respecter les accords conclus ces dernières décennies avec l'État hébreu. Des accords douaniers, financiers et surtout sécuritaires. Les Palestiniens accusent les Iraniens, soutenus par les États-Unis, de ne pas respecter ces textes. Étienne Monin.
Et c'est la première fois que le président Abbas utilise ce levier. La fin des accords sécuritaires avec Israël est considérée comme l'arme absolue dans la région. C'est un risque élevé de déstabilisation. Plusieurs organes politiques palestiniens l'avaient demandé ces dernières années, mais le président avait repoussé la mise en application. Cette décision est une façon de dénoncer les dernières mesures appliquées par les Israéliens. Ces derniers mois, ils ont retenu une partie des taxes douanières palestiniennes pour protester contre le versement de pensions à des familles de prisonniers. Et cette semaine, ils ont détruit des maisons construites sur une zone administrée d'après Oslo par l'autorité palestinienne. Tout cela arrive dans un contexte de gel total des avancées de paix et de signes très alarmants donnés par des représentants américains. Mahmoud Abbas espère tenir la pression populaire interne. On le soupçonne de vouloir gagner du temps. Le retrait des accords dépend maintenant d'un comité. Tant qu'il n'a pas décidé, tout ça reste au stade de la menace.
Étienne Monin en Israël pour France Culture. Le nouveau doigt d'honneur de Donald Trump aux écologistes. Depuis une semaine, les partisans du président des États-Unis, candidat à sa propre réélection, peuvent contribuer à sa campagne en achetant des pailles en plastique sur son site internet. Au milieu des traditionnels mugs et autres t-shirts à slogan, ce nouveau goodies, comme on dit outre-Atlantique, paraît aussi absurde que Trump est climato-sceptique. D'autant qu'au milieu des sommes déjà amassées par le locataire de la Maison Blanche, la contribution de ces pailles s'annonce déjà bien maigre. À New York, les précisions de notre correspondant Loïc Loury.
$15 pour une dizaine de pailles en plastique. Elles sont rouges, made in USA et portent le nom de l'actuel président. Pas de quoi sauter au plafond. Et pourtant, elles sont en rupture de stock. $200,000 de pailles vendues en quelques jours, selon le directeur de campagne de Donald Trump. Sur Twitter, Brad Parscale se félicite. Make straws great again, dit-il, rendre leur grandeur aux pailles. D'après lui, les pailles progressistes en papier, comme la plupart des idées des progressistes, ne fonctionnent pas. Donald Trump, lui aussi, a visiblement beaucoup réfléchi à cette affaire.
Je crois que nous avons de plus gros problèmes que les pailles en plastique. Vous savez ce qui est intéressant avec ces pailles en plastique ? Vous avez cette petite paille. Mais qu'est-ce que vous pensez des assiettes, des emballages et de toutes ces choses plus grosses faites avec le même matériau ? Les pailles sont intéressantes, tout le monde ne pense qu'aux pailles. Mais il y a d'autres choses auxquelles penser.
Sur Fox News, la chaîne préférée du président aussi, on se réjouit, ces pailles en plastique seraient réutilisables et biodégradables. Donald Trump Jr. lui plaisante, nos pailles pourrait être illégal, dit-il, dans plusieurs États. Une ville comme Seattle notamment a banni en effet l'usage de ces pailles à usage unique qui finissent souvent dans la nature. Une bonne raison d'éviter ce genre de farce, d'autant plus que Donald Trump a déjà récolté près de $150 millions pour sa réélection.
Loïc Loury pour France Culture. Le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson, bientôt en déplacement en France. Le président français et le successeur de Theresa May se sont entretenus par téléphone hier soir. Emmanuel Macron a invité son homologue à visiter l'Hexagone dans les toutes prochaines semaines. Le fichier des mineurs isolés étrangers est bel et bien conforme à la Constitution française. Le Conseil constitutionnel a validé ce matin ce fichier biométrique qui rassemble les empreintes digitales et les données de tous les étrangers estimés mineurs à leur arrivée dans notre pays. Plusieurs associations accusent ce système de servir la lutte contre l'immigration irrégulière au détriment de la protection de l'enfance. Une vingtaine d'organisations avaient ainsi déposé une question prioritaire de constitutionnalité contre ce fichier. Pour la au cas des ONG, cette décision des sages est décevante. Mais la bataille judiciaire n'est pas terminée dans la mesure où les associations ont également attaqué le décret devant le Conseil d'État. Maître Patrice Spinozzi, joint par Florence Turme.
Le Conseil constitutionnel n'a absolument pas répondu à un de nos arguments majeurs, qui est une demande d'une reconnaissance de ce que nous appelons une présomption de minorité. Il faut bien comprendre le système que nous critiquons. Aujourd'hui, il y a des enfants qui arrivent sur le sol français, étrangers, et la question est de savoir s'ils sont majeurs ou mineurs. Et cette question est laissée au département, qui doit faire une première analyse. Et ce fichier nouveau va permettre aux préfectures, dès cette première analyse faite, d'expulser ces enfants. Or, nous considérons que seul le juge des enfants est compétent pour pouvoir apprécier véritablement quel est l'âge de ces réputés mineurs. C'est tout l'enjeu de ce contentieux. Et cette question, elle n'a pas été tranchée encore par le Conseil constitutionnel. Et le Conseil d'État en est encore saisi. Nous voulons sanctuariser l'enfance en France et que toute personne qui se présente et qui est réputée être un enfant puisse bénéficier de cette présomption de protection jusqu'à ce qu'un juge, véritablement, puisse statuer sur son âge et éviter ainsi des condamnations de la France devant la Cour européenne des droits de l'homme, comme c'est intervenu dernièrement, pour avoir précisément expulsé des mineurs que la France avait considérés activement comme majeurs.
Si on ne parlait pas de l'avenir de la filière nucléaire en France, la situation pourrait presque faire sourire. Électricité de France annonce un nouveau, pour ne pas dire énième, report de la mise en service de l'EPR de Flamanville dans la Manche. Véronique Reberotte, bonjour.
Bonjour.
Ce réacteur nouvelle génération pourrait donc entrer en production au mieux 10 ans après la date de mise en service initialement prévue, 10 ans après l'année 2012.
10 ans de report, de déboire, un pur cauchemar industriel. L'abandon du chantier a même été un moment évoqué par EDF avant d'être écarté par l'État actionnaire à 84% d'EDF. Impossible, trop d'enjeux internationaux et nationaux dans une filière, le nucléaire, que la France dit maîtriser de bout en bout, la France qui compte toujours sur une mise en marche de l'EPR de Flamanville pour se lancer dans la construction d'autres réacteurs, censés remplacer ces centrales vieillissantes. Durant donc les 3 prochaines années, il va falloir reprendre 8 soudures défaillantes localisées au niveau de l'enceinte du bâtiment réacteur de Flamanville et présentant de sérieux défauts, des réparations complexes, car ces soudures sont difficilement accessibles. Elles se situent dans la traversée de l'enceinte de confinement. C'est cette grosse structure de béton qui, en cas d'accident, doit contenir la radioactivité. EDF n'aurait pas encore tranché sur la meilleure façon de réaliser ces soudures mal placées. EDF fait savoir que le groupe communiquera dans les prochains mois sur les implications du scénario retenu en termes de planning et de coûts. L'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, le gendarme du nucléaire français, devra au final aussi valider ce qui aura été fait. Autant dire que ce délai de 3 ans n'est peut-être pas définitif, il pourrait encore déraper. Comme le coût de l'EPR de Flamanville, on est loin des 3,5 milliards d'euros annoncés au début du chantier. La facture s'élève maintenant à 11 milliards d'euros avant soudure.
Affaire à suivre donc. Merci Véronique Reberotte. Nous vous l'annoncions ce matin sur France Culture. L'écrivain et journaliste Pierre Péan est décédé à l'âge de 81 ans. Cet enquêteur chevronné avait parmi ses sujets de prédilection l'Afrique, les médias ou encore la face cachée des personnalités politiques, de François Mitterrand à Jean-Marie Le Pen en passant par Bernard Kouchner et Jacques Chirac. Mais il avait aussi consacré un ouvrage à Jean Moulin. Jean Moulin, l'ultime mystère, paru aux éditions Albin Michel en 2015. Un livre écrit à 4 mains avec l'auteur Laurent Ducastel. Il a été le collaborateur de Pierre Péan pendant 12 années.
Il travaillait essentiellement avec le relationnel. Il avait un énorme carnet d'adresses, à ne pas se mentir, mais toutes les infos devaient être coupées et recoupées. Alors des fois, ça pouvait mettre un temps infini. Il avait une info, il savait qu'elle était valable, mais il ne l'avait pas recoupée, donc il ne la sortait pas. Ce qui fait que dans tous les livres où j'ai participé dans les coulisses, je le voyais à l'œuvre, je savais qu'il avait des infos qui ne sont pas dedans parce qu'il n'avait pas pu les vérifier suffisamment. Tout ce qu'il disait était étayé, ce qui lui permettait de gagner en justice quand il était attaqué, ce qui n'arrivait pas si souvent que ça finalement.
On doit parler aussi de son style d'écriture. Ses livres se lisaient presque comme des polars.
Oui, mais c'était délibéré. C'est-à-dire qu'il a, d'abord, il aimait beaucoup le polar, hein. C'était quelqu'un qui lisait beaucoup et il aimait que ses livres ressemblent à ça. La seule différence, c'est que lui, c'était pas de la fiction. Mais il faisait en sorte que, justement, il y ait du tempo et que les idées soient clairement énoncées. C'est-à-dire, il me disait un chapitre, une idée, par exemple.
Des idées, des informations, mais pas de leçons de morale.
Ah non, jamais, non. C'était pas un moraliste. C'était quelqu'un qui avait des valeurs fortes, républicaines. Quelqu'un qui aimait beaucoup la France et qui était avant tout au service de son pays. La grande différence avec Plenel, c'est que lui, il pensait que tout ne pouvait pas être dit. Alors des fois, il a fait plein de scoops, plein de choses, mais il y avait toujours un moment où il savait ne pas aller trop loin. Il était pour le secret défense, par exemple, sur certaines choses. Il disait c'est normal qu'il y ait ça, parce que l'État, parfois, doit préserver des secrets et la transparence. Et c'est pas toujours bon sur certains sujets, voilà.
Des propos recueillis par Antoine Maretz. Le trafic des trains, notamment des Thalys et Eurostar, est perturbé sur l'ensemble du réseau de la gare du Nord à Paris à cause d'une panne d'alimentation électrique. La reprise du trafic de ces lignes internationales est attendue pour 13h dans une demi-heure. Donc, après la canicule, place à la pluie. pluie et aux orages aujourd'hui. 31 départements du Nord-Est sont en vigilance orange. Des coups de foudre sont notamment attendus du Massif central à la Champagne-Ardenne. Le temps sera également orageux dans la moitié ouest. Seul le pourtour méditerranéen aura un ciel bien dégagé. Côté température, il fera entre 28 et 38 degrés. Cette édition a été préparée avec François-Charles Domergue et Valentin Bobinet. Prochain journal de la rédaction à 18h.